Bonjour à tous, c'est le temps de le dire. Émission un peu spéciale aujourd'hui, je vous propose pendant une heure de réfléchir ensemble au mystère, puisque c'est un mystère je crois, au mystère de la sainteté. L'Église catholique nous dit que nous sommes tous appelés à la sainteté. Mais être saint, ça veut dire quoi? Est-ce vraiment à la portée de tous? Et en plus, à quoi ça sert? Quel sens cela a pour les croyants? Alors pour commencer cette émission, je voulais vous confier cette phrase attribuée à saint Ambroise, l'évêque de Milan au IVe siècle, un des pères de l'Église. La sainteté est une force communicative. Voilà, c'est le temps de le dire exceptionnellement. Cette émission est enregistrée, vous n'avez donc pas, et je le regrette énormément, la possibilité de nous appeler.
Le temps de le dire, Stéphanie Gallet.
Et dans cette émission, on s'interroge sur les différents visages de la sainteté et je vous propose d'y réfléchir à partir de trois visages que nos invités vont chacun nous présenter. Muriel Fleury, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes une laïque consacrée, vous appartenez à la communauté, on dit communauté ?
Mouvement.
Au mouvement des Focolari. Mmh. Et vous venez nous parler de Chiara Luce. Chiara Luce, c'est une jeune fille qui est décédée en 1990.
Tout à fait.
Et qui a été béatifiée en septembre 2010.
Tout à fait.
Et qui appartenait aux Focolari.
Tout à fait, mouvement des Focolari.
Un petit mot sur les Focolari pour les gens qui ne connaissent pas.
Alors, le mouvement des Focolari est un mouvement dont l'origine date à peu près de 1943, avec sa fondatrice Chiara Lubich, décédée en 2008. Ce grand mouvement qui très rapidement s'est diffusé à travers tout le monde, un peu pour charisme, l'unité. Donc de pouvoir travailler à tout ce qui est dialogue, dialogue dans la famille, dialogue dans l'entreprise, dialogue entre les différentes religions également, tout ce qui peut contribuer à rassembler la famille humaine pour pouvoir répondre à cette injonction de Jésus dans son testament, Père, que tous soient un.
C'est un mouvement qui est né dans les années 60 en Italie ?
En 1943, exactement.
1943, j'avais un peu de retard. Alors merci Muriel Fleury d'être avec nous et vous allez donc nous parler de cette nouvelle sainte, Chiara Luce. À vos côtés, il y a Alain Ternoy. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors vous allez nous parler, et ça sera le cas pour le troisième personnage, d'un personnage qui est déjà au Panthéon de la République française, mais que vous aimeriez voir figurer parmi les saints de l'Église catholique. Il s'agit d'Edmond Michelet, l'homme politique français, ministre, plusieurs fois ministre. Vous l'avez connu, vous l'avez côtoyé à l'Assemblée nationale, puisque c'est un ancien député. Votre père était un de ses amis, et vous avez d'ailleurs écrit un livre sur Edmond Michelet, s'appelle Edmond Michelet, mon ami, et c'est aux éditions Nouvelle Cité. Est-ce que j'ai dit des bêtises ?
Aucune bêtise, sauf que c'est mon père qui a écrit ce livre.
C'est votre père. Paf ! Première bêtise, quand même. Vous me pardonnez ?
Non, mais je vous en prie, bon. Au contraire.
Voilà. Troisième invité dans cette émission, c'est le père Cédric Burguin. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous venez nous parler d'un autre grand de l'Union européenne, c'est Robert Schuman, un des pères de la construction européenne, un grand homme de la France. Hein. Et vous avez organisé les 60 ans de la commémoration de la déclaration Schuman. C'était l'an passé, en mai dernier, à Metz.
Exactement. Nous avons célébré cette grande œuvre que Robert Schuman a initiée il y a 60 ans et qui est une des réalisations qui ont manifesté toute l'œuvre de Schuman.
Et vous, vous faites partie de ceux qui pensent que Robert Schuman devrait faire partie des saints de l'Église catholique.
Exactement.
Exactement. Et vous nous direz pourquoi dans cette émission. C'est le temps de le dire. Nous sommes ensemble pendant une heure et exceptionnellement, je vous le rappelle, vous ne pouvez pas écrire ou téléphoner au standard. Voilà, c'est une émission un petit peu particulière.
Du lundi au jeudi, le temps de le dire sur RCF.
Et c'est le temps de le dire. Aujourd'hui, nous parlons de la sainteté. Alors, premier tour de table, chacun pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la sainteté ? Je commence par vous, Père Cédric Burguin.
Eh bien, pour moi, la sainteté, je reprendrai, alors si vous me permettez de le faire, une phrase qui était dans le cadre du procès de béatification de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Quand elle est décédée et qu'on a ouvert son procès de béatification, une de ses sœurs du Carmel a dit « Mais pourquoi on va béatifier Thérèse ? Elle n'a rien fait d'extraordinaire. » Eh bien, c'est justement ça la sainteté. C'est faire de manière extraordinaire les choses ordinaires. Et donc, la sainteté, il ne faut pas la chercher dans des choses extraordinaires.
Mais quand on était jeune, on lisait des BD des vides saints, je me rappelle bien, et on avait quand même l'impression que c'était des super-héros.
Oui, alors l'Église a souvent, et à juste titre, hein, il faut le faire, a souvent béatifié ou canonisé des gens qui ont fait des choses extraordinaires, et je m'en réjouis, et on a besoin d'avoir des héros. Hein. L'enfant se construit avec des héros auxquels il peut s'identifier et qui vont motiver son désir de toujours faire plus. Donc ça, c'est très bien. Il faut des martyrs, il faut des Jean-Paul II, il faut des saints qui ont été jusqu'à l'autre bout.
Raoul Follereau, parce que c'était assez
voilà.
récent aussi.
Il faut des gens qui ont été jusqu'à l'autre bout de la planète pour évangéliser. Et puis, il faut aussi des gens qui nous rappellent que la sainteté, c'est dans les petits actes du quotidien. Qu'est-ce que je peux faire pour aimer toujours plus et toujours mieux dans mon quotidien, dans mon travail, dans ma famille, etc. Et dans ce sens, je me réjouis que, notamment sous Jean-Paul II, on a béatifié et canonisé beaucoup de gens ordinaires. Je pense aux parents de Thérèse de Lisieux qui n'ont pas fait des choses extraordinaires et puis d'autres saints encore. Voilà.
Alors Muriel Fleury, pour vous, qu'est-ce que c'est que la sainteté ?
Bah, je rejoins tout à fait ce que dit le père Burga et effectivement qui pourrait tout à fait aussi s'appliquer à notre jeune Chiara Luce, avec donc une foi exemplaire, une vie chrétienne vraiment tout à fait, non pas hors norme, classique en quelque sorte, mais avec une joie vraiment communicative. Une autre chose quand même qui me semble important de souligner quant à la sainteté, ce sont des personnes qui ont, alors le mot est un peu fort, mais je pense que nos auditeurs comprendront, qui ont su faire la volonté de Dieu. C'est-à-dire qui ont su complètement correspondre à ce plan d'amour que Dieu a pensé pour eux et ont su y correspondre de manière absolument extraordinaire. Et je crois que c'est dans cette fidélité, dans les petites choses, à commencer par les petites choses, qui ont pu aller jusqu'aux grandes choses, qui font que cette sainteté, cette réputation de sainteté, et ensuite ce chemin de sainteté qui va tant marquer les personnes qui vont ensuite étudier, regarder, suivre leur exemple, eh bien je pense que ça va être la meilleure expression, le meilleur témoignage de ce qu'il va ensuite rester dans les âmes sur cette sainteté.
Alain Ternoir.
Et quel qu'ait été leur parcours de vie, leur éventuelle souffrance, leur succès, leur action collective ou solitaire, un saint me paraît être un être qui a quelque chose en plus, qui respire une forme de charisme et qui effectivement, conscient ou inconscient, traduit dans son comportement, dans sa vie, dans ses propos, dans ses actes, un message divin. Et que les autres sentent.
Le temps de le dire, Stéphanie Gallet.
Voilà, maintenant qu'on vous a entendu évoquer la sainteté, je voudrais qu'on rentre un peu à la découverte de vos saints. Alors, je dis déjà saint, mais qu'est-ce qu'il faut dire pour Robert Schumann ou pour Edmond Michelet?
Edmond Michelet était un homme dans le monde, dans la vie normale, pour ne pas dire classique, marié, père de 7 enfants, ayant une activité professionnelle dont il vivait, militant.
C'est très banal ce que vous êtes en
train de dire. Engagé, absolument. Engagé dans l'action politique avant la guerre, profondément chrétien, à la fois dans son comportement social, dans son comportement familial, dans son respect des règles de l'Église à laquelle il croyait profondément, et puis héros, du fait des circonstances, d'une certaine façon, premier résistant de France, puisqu'en publiant les mots de résistance de Charles Péguy, dont il était un disciple, le 17 juin 1940, il a engagé dans son pays de Brive-la-Gaillarde tous ceux qui le connaissaient, qui l'ont lu, à résister à l'occupation et à la défaite provisoire de la France. Ensuite, arrêté, déporté à Dachau. Alors c'est là probablement qu'il s'est le plus révélé aux autres comme quelqu'un d'exceptionnel, inspirant la reconnaissance, la gratitude, n'ayant pas peur des dangers, car il était dans les plus extrêmes dangers, puisque transmettre...
C'est quelqu'un de très courageux ?
Profondément courageux, transmettre la communion aux mourants qui l'entouraient, contre la règle nazie, n'est-ce pas ? Puisqu'on entrait à Dachau par la porte, on en sortait normalement par la cheminée, lui a bravé tout cela et reconnu par tous ceux, même qui ne croyaient pas au ciel, puisque les communistes français à Dachau l'ont tout de suite pris comme leader, comme chef, comme responsable. Et puis dans sa vie politique, il a continué pour être ce ministre qui priait, ce ministre qui communiait, qui succédait à une Troisième République particulièrement laïque, pourquoi pas, mais assez anticléricale. Il a affiché au regard des autres une croyance, une foi. Enfin, il représentait bien ces vertus théologales que sont la foi, l'espérance et la charité. Tel était Edmond Michelet dans le quotidien, y compris dans son action publique. De Gaulle disait de lui, en parlant de lui, « Qui que vous soyez, royaliste ou communiste, vous ne pouvez être qu'un ami d'Edmond Michelet, car il était la tolérance et l'ouverture aux autres. Il aimait les autres et les autres l'aimaient. »
Mais ça suffit à faire un saint ? C'est déjà énorme, c'est une personnalité extraordinaire.
Écoutez-moi,
je
n'en sais rien, je n'ai pas de compétences pour en décider. Ayant eu la chance de sentir le rayonnement d'Edmond Michelet dans le parcours amical qu'il avait avec ma famille, avec mon grand-père Francis Gué, avec mon père Louis Ternoir, oui, il m'a toujours beaucoup impressionné, y compris par un comportement parfaitement normal, un vocabulaire classique, parfois même un peu provocateur, mais son regard, son sourire, sa bienveillance, sa générosité naturelle faisaient qu'il me paraissait différent, qu'il avait quelque chose d'autre, sinon même de plus que toutes les personnes ou même personnalités que ma vie, notamment ma vie politique, et notamment ma vie politique internationale, m'a permis de rencontrer. Son regard était rayonnant, irradiait, si vous voulez, cette espèce de foi qui l'habitait. Peut-être que d'autres ne partageaient pas de la même façon, parce qu'on n'était pas habité comme il pouvait l'être lui-même, mais on ressentait sa foi et sa force, et on ne pouvait pas ne pas apprécier Edmond Michelet.
Alors,
est-ce que c'est un saint ? C'est à l'Église, au pape, de le dire, de le déclarer. Je n'ai pas, moi, cette compétence. Je peux simplement vous dire qu'à ses côtés, en le regardant et en l'écoutant, je ressentais quelque chose que nul autre, dans toute ma vie, ne m'a fait ressentir.
On va continuer à découvrir ces figures hors du commun. Père Cédric Burguin, vous nous parlez de Robert Schumann. Pourquoi pensez-vous que, peut-être comme Edmond Michelet, il pourrait un jour devenir un saint de l'Église catholique ? Parce que Robert Schumann, c'est une personnalité qu'on apprend dans les livres d'histoire en France.
Oui, je voudrais juste faire une petite précision, si vous me permettez. Il faudrait bien distinguer quand même ce qu'on appelle un saint. C'est-à-dire, un saint canonisé, c'est un saint que l'Église va montrer au peuple chrétien comme saint. Mais le bon Dieu ne va pas attendre que l'Église canonise pour que la personne soit au ciel. Et on peut être un saint, et il y en a des millions, peut-être même des milliards d'ailleurs, qui sont au ciel et qui ne seront jamais canonisés par l'Église. Donc il faut bien faire la distinction. Et donc, si vous me demandez si pour moi Schumann est un saint, je n'attends pas le jugement de l'Église.
Vous dites oui, assurément.
Je dis, pour moi, je suis sûr que Schumann est au ciel, et c'est bien pour ça que je le prie d'ailleurs, et pour que sa sainteté soit révélée au monde. Maintenant, si un jour l'Église me dit « on pense que » Schumann n'est pas un... Enfin, qu'on ne peut pas canoniser Schumann, j'arrêterai de montrer Schumann en exemple et de dire on priera parce que je me cacherai derrière le jugement de l'Église. Mais ça ne voudra pas dire qu'on ne retrouvera pas Schumann au ciel. Voilà, c'était une petite, petite précision que je voulais faire. Alors, Schumann, qu'est-ce qui fait que Schumann pourrait être canonisé, montré en exemple par l'Église ? Eh bien, il y a plusieurs points qui me semblent importants. D'une part, c'est le fait que Schumann n'a jamais fait aucune distinction entre sa vie de foi et sa vie d'action, son travail.
Il était parfaitement unifié.
Et Schumann, j'allais dire, remettait toujours l'église au milieu du village, comme on disait autrefois. Et donc, il prenait toutes ses décisions à travers sa vie de prière et à travers sa vie de foi. Il voulait qu'aucun de ses actes ne soit en désaccord avec le Seigneur et avec la foi chrétienne, avec le Christ. Et c'est bien pour ça que Schumann allait à la messe quasiment tous les jours, sauf à mon avis quand il était en déplacement ministériel et encore. Et c'est ce qui fait dire d'ailleurs dans le petit village de Sichazel où il est enterré aujourd'hui. C'est près de Metz. Il avait été question de mettre Schumann au Panthéon et ses amis ont dit, alors là, ça serait à l'encontre de la simplicité de Schumann. Donc il est resté enterré à Metz dans son petit village. Et il avait choisi sa maison parce qu'en face, il y avait trois églises en face de sa maison. L'église, la chapelle des sœurs, des servantes du cœur de Jésus, qui existe toujours, où il y a l'adoration quasiment perpétuelle. Il y avait la petite chapelle paroissiale, Saint-Quentin, fortifiée du XIIIe siècle, et puis juste au-dessus, la chapelle des Visitandines. Et Schumann avait choisi sa maison dans laquelle il revenait quasiment tous les week-ends pour pouvoir se retrouver là comme dans un monastère, où il participait à l'adoration, à la prière des sœurs, etc. Et c'est ce qui a fait dire aux enfants du village « On ne connaît Monsieur Schumann qu'à genoux et de dos ». Voilà pourquoi il pourrait être donné en exemple. Et du reste, le Conseil Général a fait installer pour le 9 mai dernier, pour le 60e anniversaire, un prie-Dieu dans la chapelle des sœurs, qui, à mon avis, le meilleur souvenir que Schumann a laissé dans ce village. Et puis l'autre chose, c'est sa simplicité et son honnêteté de vie. Schumann a été beaucoup critiqué, notamment par le président de la République de l'époque quand il était ministre. On disait toujours de lui que Schumann, c'était le Vatican qui se planquait derrière un veston. Quand le président de la République dit ça d'un de ses ministres, c'est quand même pas très sympathique. Et ça montre bien le climat anticlérical dans lequel on baignait. Mais s'il y a une chose qu'on ne peut pas trouver chez Schumann, c'est les pots de vin. J'arrive pas à trouver d'autres mots. Et puis, donc, Schumann était profondément honnête. Et tout le monde savait qu'ils étaient de droite, de gauche, catho, pas catho, etc. On savait pertinemment que Schumann était quelqu'un d'intègre, d'honnête, et que toutes ses décisions étaient faites en accord avec sa foi.
Mais Père Cédric Burguin, quand je vous entends, quand je préparais l'émission, je pensais que moi, vous alliez nous parler de la construction européenne et du travail de rapprochement entre les peuples, dans ce qui fait que Robert Schumann pourrait un jour devenir un saint, ou l'est déjà, on l'a compris, mais pourrait être reconnu officiellement par l'Église catholique.
En fait, la construction européenne révèle profondément une des grandes caractéristiques de Schumann, c'est que c'était un homme de paix, qui était ouvert à son frère, quel qu'il soit, quelles que soient les actions de son frère. Schumann a voulu la paix et la réconciliation profondément entre les peuples et même avec l'Allemagne au sortir de la guerre, quand l'Allemagne était sous embargo et que tous les pays européens voulaient surtout laisser l'Allemagne sous embargo et qu'elle ne se reconstruise pas. Eh bien, profondément, Schumann a tendu la main, a voulu la paix et la réconciliation, plus que ça, a voulu le partage. C'est ce qui lui a valu beaucoup de critiques à l'époque. Et du reste, un homme politique de l'époque avait dit que Schumann était un boche, un bon boche, mais un boche. Et donc, Schumann a profondément tendu la main. Et quelque part, ça révèle tout son être. C'est que dans le Christ, quand on est chrétien, on ne peut pas vouloir la division, la guerre, la critique de son frère, quels que soient ses actes, quelles que soient ses paroles. Et ça émanait de Schumann. Et donc la construction européenne ne fait que révéler ce qui habitait profondément le cœur de Schumann.
Je me retourne vers vous, Alain Ternoir, et avec Edmond Michelet, c'est un peu la même chose. L'œuvre politique est importante dans la réflexion sur l'hypothétique sainteté, mais elle est beaucoup moins importante que la personne.
L'œuvre politique est une façon d'exprimer son espérance et sa foi chrétien et en tant que chrétien, selon la formule. C'est-à-dire qu'il était chrétien dans la vie quotidienne et dans son engagement politique. Il agissait en tant que chrétien. C'était un démocrate absolu, homme de paix, naturellement. Mais l'homme de paix ne nie pas la réalité de la guerre et ne nie pas la nécessité du combat lorsque celui-ci s'impose et lorsqu'il faut rétablir la liberté et pouvoir la vivre en démocrate. Tel était le comportement de Michelet. Lorsqu'il fut, parce que c'est un aspect qui a pu prêter à controverse, ministre de la Justice à la fin de la guerre d'Algérie, dans une période particulièrement délicate, dans une fonction ô combien sensible, il a dit qu'il était celui qui portait les menottes avec ceux qui les avaient aux mains. Et en même temps, il n'a pas empêché que la réalité de la justice, éventuellement dans sa sévérité, puisse s'exprimer. Mais il a toujours plaidé pour éviter le pire et pour permettre que la solution pacifique l'emporte. Il est devenu ainsi le premier président de l'association France-Algérie. Il a donc montré qu'après avoir été du côté de la justice officielle française, il était l'ami de ceux qui avaient pu en être les victimes. Et ça, c'est l'exemple un peu de son comportement. J'évoquais tout à l'heure sa déportation. Sachez que malgré qu'il fût atteint par le typhus, dont il pouvait mourir d'un instant à l'autre, il a décidé, comme un capitaine sur son bateau qui sombre, d'être le dernier à quitter le triste navire de Dachau. Et pour revenir à la question du saint, un de ses collègues du gouvernement, qui n'était pas chrétien, qui était d'origine juive, mais qui n'était pas chrétien, et qui donc n'avait pas de croyance particulière sur les saints, si les saints existent, alors Edmond Michelet en est certainement un. Venant de quelqu'un qui ne partageait pas la même foi, à la différence, moi je vous ai dit ce que j'en pensais tout à l'heure, de ce que je pense d'Edmond Michelet, je trouve que c'est une formule qui pourrait être retenue.
Alors c'est passionnant hein, de vous écouter raconter ces personnalités extraordinaires. Extraordinaire, homme de foi, je mets des S hein, bien sûr à homme, et complètement inscrit dans leur monde. Je ne sais pas s'ils écoutaient du rock, mais nous allons écouter quelqu'un qui n'était pas un enfant de cœur et encore moins un saint, mais quand on l'écoute, on lui pardonne tout. Et là, il nous chante Oh When the Saint, c'est Jerry Lee Lewis.
Well, when the saint, oh, marching in, yes, when the saint, oh, marching in. When the saints go marching in, well up there I see my Savior who redeemed my soul from sin, and with extended hand he'll greet me. Yes, when the saints go marching in, well when the saints go marching in, yes, well when the saints go marching in. When the saints go marching in, well up there I see my Jesus. Yes, up there I see Paul and Silas too. They're gonna walk around, all around, all the streets of the glory, hallelujah, hallelujah, when the saints go marching in. Well, now when the saints go marching in, ooh, the saints go marching in, ooh, oh, Lord, I've got to be in that number, when the saints go marching in. Well,
C'est le temps de le dire que vous écoutez émission un peu exceptionnelle ce matin. Nous parlons de la sainteté à travers trois figures extraordinaires. Chiara Luce, qui était sainte depuis, enfin reconnue sainte par l'Église catholique depuis septembre 2010. Edmond Michelet et Robert Schumann, dont la cause est actuellement étudiée à Rome. On reviendra sur les différents process, je ne sais pas si on peut parler comme ça, pour l'un comme pour l'autre. Nous sommes dans cette émission avec Muriel Fleury des Focolari, avec Alain Ternoir qui nous parle donc d'Edmond Michelet, avec le père Cédric Burguin qui nous parle de Robert Schumann. Je vous rappelle qu'exceptionnellement, cette émission n'est pas en direct. Vous ne pouvez donc pas nous téléphoner. Muriel Fleury, vous nous parlez de Chiara Luce. C'est une jeune fille à la fois tout à fait ordinaire et puis complètement fascinante.
Complètement extraordinaire à la fois, tout à fait. Comme aussi l'a montré la célébration donc de sa béatification qui a eu lieu en septembre dernier, où plus de 20 000 jeunes se sont réunis. Et vraiment, ça a été une manifestation de l'esprit, on peut dire, assez exceptionnelle. Alors cette Chiara Luce, qui est-elle finalement? Parce que c'est vrai que notamment en France, est assez peu connue. Et je crois qu'elle gagne à être connue et de plus en plus de jeunes aujourd'hui s'intéressent à cette belle figure. Alors, Chiara Luce donc est née en 1971 après 11 ans d'attente de ses parents, fille unique. Et dans une famille d'éducation, elle a reçu une éducation chrétienne très importante. Et à l'âge de 9 ans, elle et toute la famille vont vivre une expérience assez importante à l'occasion d'un rassemblement auquel ils vont participer, du mouvement des Focolari, qui va vraiment bouleverser l'existence de la famille au contact de cette spiritualité qui va leur redonner un engagement tout à fait nouveau dans leur paroisse, dans leur vie de chrétien. Au service des autres, dans un amour aussi vécu en famille qui va s'exprimer de manière bien plus forte et bien plus radicale. Et puis cette jeune Chiara va déjà toute jeune montrer quand même des signes un peu particuliers de générosité, d'ouverture aux autres. On se rappelle cet épisode, elle a 4 ans et sa maman un jour lui dit que vraiment elle a beaucoup de jouets. Est-ce qu'elle pourrait pas en partager un peu? Alors au début elle dire non, absolument pas. Et puis ensuite de demander à sa maman un sac en plastique dans lequel elle voit qu'elle met d'un côté les jouets cassés, de l'autre côté les beaux jouets. Et qu'elle met les beaux jouets dans le sac en plastique. Et elle dit, mais aux pauvres, on ne peut pas donner les jouets cassés. Et c'est cette générosité vraiment qui va grandir en elle auprès de ses amis. C'est quelqu'un qui est un petit peu leader, mais un leader un peu discret, mais quelqu'un dont ses amis se rappellent comme quelqu'un d'extrêmement joyeux, extrêmement libre. Pas quelqu'un forcément de très performant à l'école. Elle va même redoubler sa seconde et ça va être pour elle une grande épreuve. Et puis, mais surtout, comme elle le dit, ça va la préparer à une autre épreuve. Ça va aussi lui apprendre que dans la souffrance, il y a un chemin possible et que Dieu ne nous abandonne pas. Et ça va être à l'aube de ses 17 ans qu'alors qu'elle jouait au tennis, c'était une grande sportive, elle va ressentir une douleur très importante à l'épaule. Mais elle va rentrer chez elle et bon, on commençait des examens. Des examens qui vont mettre du temps à pouvoir donner un diagnostic un peu plus sûr. Et ses parents en fait vont apprendre qu'il s'agit là d'un cancer des os, assez fulgurant. Chiara Luce, au départ, ne le sait pas. Ils vont d'abord entreprendre une opération qui va s'avérer inutile, mais cependant très douloureuse. Et puis le 14 mars 1989, elle va avoir sa première chimiothérapie. Et là, elle va comprendre, en arrivant dans le service, en voyant les autres, elle va comprendre qu'elle a un cancer.
Et on ne lui avait pas dit.
On lui avait dit que c'était un cancer, mais qu'il y avait des possibilités de rémission, des possibilités de guérison. Et là, elle va comprendre qu'elle est dans un cancer qui a de très petites chances de pouvoir être guérie. Alors elle va rentrer chez elle et à l'arrivée, sa maman, qui n'avait pas pu venir avec elle à cette séance de chimiothérapie, lui dit alors comment ça s'est passé. Et Chiara de lui dire « ne dis rien ». Elle va dans sa chambre, elle se met sur son lit. Et là, sa maman voit bien ce combat intérieur en elle. Ce combat...
Elle avait quel âge?
Elle avait 17 ans. Pour pouvoir dire ce oui à Dieu, ce oui à Jésus dans ce qui se présente aujourd'hui comme, voilà, mystérieusement, comme un dessein de Dieu un peu particulier. Et durant 25 minutes, il va y avoir ces fameuses 25 minutes au cours desquelles ce combat va se jouer et à l'issue desquelles elle va retrouver ce sourire absolument lumineux qu'on lui connaît, aujourd'hui qu'on garde d'elle. Et vraiment, on sent que ce oui a été fait et qui va l'entraîner pour toute sa vie, pour tout le reste de sa courte vie. C'est-à-dire qu'une fois que Chiara Luce a dit oui, elle ne retournera jamais plus en arrière. Alors elle se retourne vers sa mère avec ce grand sourire en lui disant « Maintenant, tu peux parler ». Et à partir de là, ça va être une montée au Golgotha, ça c'est sûr.
La souffrance.
La souffrance. Et en même temps, une acceptation, plus qu'une acceptation, même ça va être la conviction qu'à travers ce parcours, qu'à travers ce que la vie lui propose, eh bien, il y a une union à Dieu tout à fait particulière à laquelle elle est appelée et à laquelle elle voudra toujours s'inscrire et toujours plus s'inscrire. Donc Chiara Luce, c'est un chemin d'immense fidélité à Dieu, mais dans une joie. Tous ceux qui venaient la voir pensaient venir la voir pour la réconforter. Et en fait, ils étaient absolument stupéfaits de voir qu'en sortant de l'hôpital ou en sortant de chez elle, puisqu'après elle sera tout simplement chez elle une fois que la médecine aura rendu les armes, eh bien ils se sentent eux complètement, ils sentent leur âme complètement élevée en se disant « mais en fait c'est elle qui nous aide ». Et Chiara Luce avait cette particularité finalement de ne pas parler de Dieu, parce que ce qu'elle souhaitait, c'était pouvoir donner Dieu à travers son être. Elle avait fait cette expérience de l'amour de Dieu pour elle et de l'amour de Dieu pour tout à chacun. Et vraiment, elle, durant sa vie, avant la maladie et après la maladie, elle a vraiment toujours cherché à pouvoir comme être ce vecteur d'un amour débordant pour tout à chacun, dans une générosité, dans une ouverture. Les personnes qui venaient la voir, avant tout, c'était d'eux dont elle se préoccupait. Elle, du haut de ses 18 ans. Et ça n'a laissé personne indemne. Et si aujourd'hui, il y a eu donc cette béatification, suite aussi à un miracle qui a eu lieu en 2001, eh bien, on peut dire que cette histoire n'en restera pas là. Et que la fécondité qu'il y a eu au travers de ce parcours très bref, eh bien, continue de faire son chemin dans les âmes. Aujourd'hui, ce sont des milliers de jeunes, chaque année, qui passent sur sa tombe, à Sassello, près de Gênes, en Italie. Et avec aussi ses parents, qui sont toujours de ce monde, qui sont venus en France il y a quelque temps. Et vraiment, où on peut observer combien cette sainteté a été non seulement de Chiara Luce, elle a été familiale, elle a été communautaire aussi au travers de tout ce qu'elle a pu vivre avec tous les jeunes, avec tous les membres aussi des Focolari et les personnes de la paroisse, l'évêque du lieu, avec qui il y a eu une communion permanente. En fait, Chiara Luce, je crois que ce qu'elle a aussi de particulier, c'est qu'elle n'a pas gardé son expérience pour elle seule, mais elle a toujours été dans le don d'elle-même, le don aussi, la communion de ce que cette expérience lui faisait vivre et que finalement c'est aussi un chemin qui nous est proposé tout à chacun, c'est de ne pas cheminer seul avec Dieu mais de cheminer ensemble.
Père Cédric Burguin, à travers le portrait que vient de nous dresser Muriel Fleury de Chiara Luce, elle nous a dit, il y a eu plusieurs choses, mais elle nous a dit qu'elle ne parlait pas de Dieu. Est-ce que Robert Schumann parlait de Dieu?
Non.
Non.
Non, ça va vous faire sourire, mais non.
Dans ses écrits,
on arrive très peu à trouver des choses, des paroles de Schumann où il parlait de Dieu. Il était très discret sur sa foi, mais en fait, sa foi émanait de ses actes. Et je suis très touché d'entendre le témoignage de Chiara Luce, que j'avoue ne très peu connaître. Et me revient cette parole de l'Évangile. Qui résonne fort, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra comme mes disciples. C'est pas ceux qui en parlent le plus qui sont le plus saints. C'est à travers nos œuvres, eh bien, la sainteté se dégage. Et je pense que autant pour Schumann que pour Chiara Luce, et puis pour Edmond Michelet, d'après ce que je comprends, c'est vraiment une caractéristique très forte. Ils ne parlaient pas de Dieu, mais on le savait. On le savait. On savait qu'ils étaient chrétiens. On savait que le vrai moteur de leur vie, c'était Jésus. C'était de réaliser la volonté de Dieu, la réaliser au quotidien. Et comme ce que je rappelais tout à l'heure, c'est que tout acte était posé en fonction du Christ. En fonction du Christ. Qu'est-ce que Jésus voudrait que je fasse? Qu'est-ce que Jésus ferait à ma place? Et à partir du moment où on a la réponse, eh bien l'acte et naturel, et il découle de cette foi. Et je pense que pour Schumann, c'est une très grande caractéristique. Et puis, par contre, on savait que Schumann était un grand priant. Et ça, c'est une autre caractéristique des saints. C'est qu'il ne faudrait pas trop vite tomber dans la dichotomie « je suis contemplatif » ou « je suis un actif », Marthe et Marie, qu'on oppose trop souvent, alors qu'il n'y a aucune opposition. Un chrétien, c'est quelqu'un qui prie, d'abord. Parce que quand on est amoureux de Dieu, on rencontre Dieu de manière personnelle dans sa prière. Il n'y a pas de saint sans vie de prière. Et j'allais dire, si on cherchait les points communs, j'ai un jour rencontré la fille d'Edmond Michelet, que je connais bien, et elle m'a dit « Autant Edmond Michelet et Schumann avaient des positions politiques différentes, mais il y avait un lieu où ils se retrouvaient toujours. »
C'était à l'église ?
C'était au confessionnal. Parce qu'ils se confessaient dans la même église quand ils étaient à Paris et qu'ils allaient, apparemment, ils étaient dans la même file. Et que vous voyez, quand on fait la volonté de Dieu, il n'y a pas des ministres ou des simples gens. Tout le monde est humblement devant le Seigneur à accueillir sa miséricorde et à se dire « Comment est-ce que je peux faire la volonté de Dieu dans ma vie ?»
À l'internoir, Edmond Michelet, c'était le ministre qui priait. Est-ce qu'il a laissé des écrits sur sa foi ?
Des références à Jeanne d'Arc, à Louis IX, c'est-à-dire à Saint-Louis, à Charles de Foucault, à Peggy, à Marc Sangnier, mais des écrits spécifiques sur sa foi, je ne connais que les lettres qu'il a pu écrire à titre personnel à mon père, qui montraient que son chemin était toujours en référence à cette espérance chrétienne. Edmond Michelet, comme Robert Schumann, tenait à aller à la messe tous les matins et faisait en sorte que sa vie publique très accaparée le lui permette, y compris lorsqu'il y avait des manifestations à caractère officiel qui auraient pu y faire obstacle. Mon père relate dans son livre « Edmond Michelet, mon ami » cette anecdote d'un préfet qui recommandait au ministre d'État qu'Edmond Michelet était à ce moment-là de ne pas aller à la messe parce que c'était contraire à la laïcité de la République française. Edmond Michelet lui avait répliqué « J'ai réussi à aller à la messe à Dachau, là où c'était condamné à mort. C'est pas maintenant que la liberté est rétablie. » Que vous allez, vous, monsieur le préfet, me l'interdire au titre de je ne sais quel respect d'une république
dents.
À laquelle je crois au moins autant que vous.
Et blanc dans les dents. Je voudrais que Muriel Fleury, vous avez parlé du miracle en 2001 attribué à Chiara Luce, qu'on parle de cette notion de miracle. C'est quelque chose qui est souvent mécompris. Alors, pour devenir officiellement saint, être reconnu saint par l'Église catholique, il faut un miracle. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Il faut un miracle.
Muriel Fleury.
Effectivement, l'Église, dans sa sagesse, souhaite que ce soit un miracle de santé, enfin lié, donc vraiment où il y a un avant et un après, et où scientifiquement, on puisse vraiment valider le fait de quelque chose, d'une intervention extraordinaire. Alors, parce que sinon, des miracles, nos saints en font quotidiennement. Alors là, dans le cas de Chiara Luce, il s'agit d'un jeune garçon qui, donc en 2001, qui avait 8 ans, et qui a été subitement atteint d'une méningite aiguë, et à qui les médecins donnaient 48 heures.
En 2001, elle était décédée, on est d'accord.
Tout à fait, elle est décédée en 1990. Mais déjà, sa réputation de sainteté, le procès avait commencé. Et donc, son oncle, enfin l'oncle de ce jeune garçon qui s'appelait Andrea, sachant vraiment l'état de grave de son neveu, a tout de suite pensé à Chiara Luce et a demandé, les moyens modernes et aidants, par mail, par SMS, à contacter comme ça toute une chaîne de personnes en demandant de prier par l'intercession de Chiara Luce pour obtenir la guérison. Et en fait, eh bien, en l'espace de 24 heures, d'un seul coup, tous les indicateurs se sont renversés. Là où, normalement, il n'y avait plus qu'une issue, il n'y avait plus qu'à attendre. Les médecins lui disaient, c'est même pas la peine de le transporter. Vraiment, il n'y avait plus rien à faire. Eh bien, au contraire, d'un seul coup, les indicateurs se sont renversés. Et puis la vie est repartie. Et puis, au bout de 15 jours, il est sorti de l'hôpital, absolument en bonne santé, tant et si bien qu'il a entrepris même des études de sportif à haut niveau par la suite. Donc c'est assez, effectivement, c'est de l'ordre du miracle. Et ce miracle a été donc reconnu par l'Église en 2009, ce qui a permis donc cette béatification en septembre dernier.
Alors quand je vais faire un peu l'ignorante, mais quand on entend l'histoire de Chiara Luce, toute l'épreuve de la maladie, du cancer qu'elle a traversé, la souffrance, on peut faire un lien avec la guérison de ce garçon. Mais quand on voit nos deux hommes politiques, Robert Schuman et Edmond Michelet, est-ce qu'il y a des miracles? Quelle cohérence là-dedans? Alors je me tourne vers vous, Père Cédric Burguin.
Pour Schuman, il n'y a pas encore de miracle, on l'attend. Et on prie pour, on prie par l'intercession de Schuman. Il faut, pour comprendre cette question du miracle dans un procès de béatification ou de canonisation, il faut bien comprendre quel est le chemin, le processus d'un procès de béatification. La première étape, ça va être de creuser au niveau de la vie du candidat à la sainteté, de voir s'il n'y a rien de contraire à la foi et aux mœurs, que nous a enseigné le Christ. Une fois que cette étape a été faite, il va y avoir une autre étape, c'est de voir comment le candidat a vécu les vertus chrétiennes, théologales et cardinales.
Théologales et cardinales, c'est des gros mots, là, allez-y, expliquez-nous ça.
Les vertus théologales, ce sont les dons de Dieu pour notre vie. La foi, l'espérance et la charité qui nous sont donnés au baptême, comme des graines qui sont semées dans notre cœur, et après on les fait germer et pousser et fructifier comme on peut. Voilà. Bon. Et puis les vertus cardinales, ce sont les vertus humaines que tout homme doit développer dans son cœur. La justice, la force, la prudence et la tempérance, si je ne me trompe pas. Et donc, il va falloir montrer dans la vie du chrétien, candidat, qu'il a vécu ses vertus de manière héroïque. Non pas seulement habituelle, mais héroïque. De voir comment en lui ce combat pour rester fidèle à ses vertus a fait éclater la vérité du Christ, la splendeur du Christ dans sa vie. Quand je vous entends Muriel sur la vie de Chiara Luce, la vertu de foi et d'espérance et de charité dans une épreuve comme celle de la maladie, eh bien elles sont éclatantes dans ce que vous nous montrez. Quand on voit la vie d'un homme comme Schuman ou Edmond Michelet en politique, la vertu de prudence, de force, on tient profondément à son idée. La vertu de charité, je tends la main à mon frère, même s'il est à terre et s'il m'a fait la guerre pendant 300 ans, etc. etc. On va prouver comment le candidat a vécu ses vertus de manière héroïque. Et puis ensuite vient la question du miracle. La question du miracle post-mortem, après la mort. Il ne suffit pas d'avoir fait des miracles pendant sa vie. Tout le monde en fait. Tout le monde pourrait en faire. Et il y en a d'ailleurs qui sont faits. Il y a eu des miracles de la vie de Jean-Paul II, on le sait, on le sait. Mais après la mort, pourquoi? Eh bien parce que l'Église, si elle met tout en œuvre pour essayer de prouver humainement que quelqu'un a vécu cette héroïcité des vertus, attend comme une confirmation de la part de Dieu que cette personne, d'une part, est bien au ciel, ça c'est une chose, ce que je vous ai rappelé tout à l'heure, mais que d'autre part, on peut donner la vie de cette personne en exemple. Et la question du miracle est extrêmement importante. Alors dans le cas de Schuman, elle avait été évoquée, certains hommes politiques, même français, que j'ai encore rencontrés récemment, avaient écrit carrément au pape pour dire « Mais écoutez, la réconciliation franco-allemande est un miracle au sortir de la guerre. » Oui, je le crois profondément. Que, vu le contexte politique, c'était impensable. C'était impensable. C'est un vrai miracle. Mais le problème, c'est que c'est un miracle qui dépend d'un discernement historico-politico-social. Vous voyez ce que je veux dire? Un miracle médical, une guérison, comme Muriel l'a rappelé tout à l'heure, eh bien, c'est vraiment quelque chose où la médecine va pouvoir dire « là, il n'y a scientifiquement aucune raison. »
Donc il faut faire confiance et il faut attendre que le miracle se révèle, c'est ça?
Il ne faut pas seulement faire confiance.
Il faut prier.
Il faut prier. Il faut prier par l'intercession des personnes pour qu'il y ait un miracle. Et donc, moi, régulièrement, quand on me confie des maladies, des grandes souffrances, etc., je les prie par l'intercession de Robert Schuman, où je dis aux gens, allez faire un pèlerinage sur la tombe de Schuman pour qu'il y ait des choses objectives, pour qu'on puisse dire, là, il y a eu une intercession du saint, enfin, du futur.
Alain Ternoir. Edmond Michelet, il y a déjà un miracle de connu ou pareil, vous priez, vous attendez?
Pas à ma connaissance, simplement tout ce qui vient d'être dit et qui pouvait se rapporter à Robert Schumann peut également se rapporter à Edmond Michelet. Le moment le plus aigu, le plus exemplaire, le plus douloureux, le plus presque impénétrable pour la compréhension humaine naturelle, c'est la période de Dachau.
La déportation.
Où, là, dans ce cadre épouvantable de terreur et d'enfer, Edmond Michelet a apporté le bien-être à ceux qui en avaient le plus besoin et a nourri la foi par le transport de la communion dans les pires conditions. Et il a été atteint, et malgré cela, il a continué par le typhus. Typhus, d'ailleurs, dont il est mort. Beaucoup plus tard, par un phénomène d'accélération. Il a pris mal lorsqu'il a, à l'enterrement de François Mauriac, fait un discours au nom du gouvernement. Et je crois que c'est dans cette période-là qu'il a le plus inspiré aux autres le sentiment de sainteté. Et j'évoquais tout à l'heure le cas des communistes qui l'ont tout de suite reconnu comme un leader incontesté. Et mon père, qui a également écrit sur cette période, surcitaire de la mort lente, joli titre pour une période douloureuse, disait que ceux qui résistaient le mieux à l'horreur de cette période, c'était ceux qui avaient une croyance, les chrétiens bien entendu, il était de ceux-là avec Edmond Michelet, et les communistes qui avaient une autre forme de croyance, mais qui ont reconnu en Edmond Michelet celui qui avait la plus forte conviction derrière lequel il se rassemblait.
Oui, Muriel Fleury.
Une chose qui me paraît aussi importante quand je nous entends les uns les autres, c'est aussi vraiment ce rapport à la souffrance et cette capacité à faire face et à le vivre en Dieu, ça c'est sûr, mais dans une héroïcité qui est quand même hors norme. Alors, notre Chiara Luce, du haut de ses 18 ans, elle a quand même fait quelque chose qui a toujours stupéfait les médecins, c'est que ce cancer étant extrêmement douloureux, à un moment donné, elle a refusé la morphine. Elle a refusé la morphine en disant « ça m'empêche d'avoir quelque chose à donner à Dieu et à Jésus ». Alors là, on est effectivement dans des...
Là, c'est quand même des choses qui nous dépassent.
Complètement.
Je voudrais qu'on vienne sur l'exemplarité, une vie à donner en exemple. On chemine dans cette émission, on s'approche de la fin. Qu'est-ce qui, pour vous, dans chacun des saints, des personnels que vous défendez, qu'est-ce qu'il faudrait retenir comme exemplarité? Alors, pour Chiara Luce et Muriel Fleury.
Je crois que déjà, il y a une énorme joie de vivre. Vraiment, que la vie vaut la peine d'être vécue et d'être vécue avec Dieu, dans cette fidélité, cette radicalité à sa volonté, à ce dessein d'amour que Dieu a sur chacun. Voilà, faire de notre vie une réponse d'amour à l'immense amour que Dieu a pour chacun. Et ça dans la joie, peut-être même dans les épreuves, mais que les épreuves ne sont guère qu'un passage et que le Christ a déjà vaincu et que rien ne peut nous effrayer.
Père Cédric Burguin, pour Robert Schumann.
Moi, ce qui me marque beaucoup, quelque part, chez Robert Schumann, c'est son espérance. L'espérance de se dire que rien n'est jamais perdu d'avance. Schumann, qui était cet homme des frontières, avait bien conscience que, si on voulait remonter au moins à une date symbolique, l'Europe se déchirait depuis 1843, le traité de Verdun. Alors que tout était un peu pessimiste au sortir de la guerre, même si on était content d'en sortir, tous les indicateurs politiques de l'époque étaient pessimistes quant à un nouveau conflit dont on avait peur. Schumann était dans un contexte politique complètement anticlérical. Eh bien, ça ne l'a pas empêché de se dire « j'y vais ». Et de se dire qu'avec la grâce du Christ, avec la force du Christ, eh bien, on peut faire changer les choses. Du fin fond de sa Moselle, j'allais dire simple avocat, si même déjà être avocat à l'époque, c'était quand même une belle situation, simple avocat, il a répondu à l'appel du Christ et l'appel de l'Église, parce que c'est l'évêque de Metz qui l'a engagé en politique et qui lui a dit « Monsieur Schumann, il faut y aller parce qu'il faut qu'il y ait des gens comme vous qui y aillent ». Et donc je trouve que Schumann est un exemple pour notre société aujourd'hui et pour les chrétiens aujourd'hui qui ont tendance à être pessimistes et défaitistes. J'entends régulièrement, il n'y a plus de prêtres, il n'y a plus de chrétiens, la politique va mal, tout va pas bien, la société, les jeunes, patati patata. Et ben, et alors ? Est-ce qu'il faut attendre que tout aille bien pour s'engager ? Ou est-ce que c'est justement parce que les choses donnent le sentiment de ne pas aller bien qu'elles réclament notre engagement ? Et pour moi, Schumann, eh bien justement, on parlait d'héroïcité des vertus. S'il y en a une que je voudrais mettre en avant, c'est son espérance.
Et pour vous, Alain Ternoir, pour Edmond Michelet ?
Je vais aborder la question un tout petit peu autrement, si vous me le permettez.
Je vous autorise.
Baptisé, catholique je suis, je vois l'Église d'aujourd'hui, l'Église à laquelle j'appartiens. Je vois le monde tel qu'il est, tel qu'il bouge et qu'il se transforme. En phénomène d'accélération, je vois l'Europe à laquelle je crois comme Robert Schumann, à laquelle Edmond Michelet croyait également de la même façon. Et je me dis qu'il faut que l'Église puisse jouer pleinement son rôle dans cette situation mouvante où les dangers n'ont pas disparu, où elle est elle-même profondément attaquée de toutes sortes et de tous endroits. Les attaques sont nombreuses aujourd'hui. Pour détruire ses vertus, c'est-à-dire l'amour, la tolérance, la générosité et l'espérance dont on vient de parler, je dis qu'on a besoin d'une Église forte qui inspire sur ses valeurs le monde qui nous entoure. On a besoin de croire en cette Église. Et donc l'Église, à travers les saints, doit montrer quelle est la voie. Et je pense qu'Edmond Michelet, et là j'y viens, voyez-vous, correspond bien à cette image que l'Église pourrait donner aux croyants et aux non-croyants, mais qui veulent vivre dans ce monde nouveau qui s'ouvre à nous. Il a une personnalité qui est dans le commun, qui est dans la vie naturelle, normale, dans le monde. Il a eu cette famille, il a eu son engagement, il a eu son militantisme, il a eu son travail, il a eu ses colères. Il est à la fois comme les autres et autrement. Et son cheminement, son comportement, son charisme peuvent être montrés en exemple. Et c'est ce type d'homme dont, à mon avis, l'Église a besoin pour continuer son chemin dans le monde difficile dans lequel nous sommes aujourd'hui.
Eh bien, je voulais vous remercier tous les trois d'être venus nous faire découvrir ces visages de la sainteté. Edmond Michelet, Robert Schumann et puis Chiara Luce. Merci à vous, Muriel Fleury, Alain Ternoir pour Edmond Michelet et Père Cédric Burguin pour Robert Schumann. Je rappelle le livre, un livre sur Chiara Luce si vous voulez découvrir cette jeune fille extraordinaire. Chiara Luce, 18 ans d'une vie lumineuse que l'on doit avoir Franz Koriasko, qui était un ami de la famille de Chiara Luce, et c'est sorti chez Nouvelle Cité. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à Pierre-Henri, qui était à la technique. Je vous retrouve très bientôt, toujours dans Le Temps de le dire. Merci à vous.